Place Info.
Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France Info pour ce nouveau rendez-vous du dimanche, le 8-30 France Info, sur France Info Radio et le canal 27 de la TNT, tous les jours désormais, du lundi au dimanche. Jean-Jérôme Berthelus, bonjour.
Bonjour Mathéo.
Chef du service politique de France Info, un nouveau rendez-vous dominical consacré au municipal de mars prochain. Premier invité ce matin, le candidat de La République En Marche à Paris, Benjamin Griveaux.
Bonjour Benjamin Griveaux.
Bonjour, merci de votre invitation.
72 personnalités prennent position en faveur de Cédric Villani dans Le Parisien. La campagne commence ?
La campagne a commencé il y a bien longtemps. C'est une campagne de terrain que nous menons depuis plus de 18 mois à Paris avec l'ensemble des marcheurs qui ont fait un diagnostic. Auprès des Parisiens, on avait interviewé 20 000 personnes pour avoir le ressenti des Parisiens sur la ville, les difficultés qu'ils rencontrent. On va rentrer dans une nouvelle phase qui est plus participative, avec des solutions. Moi, j'ai adressé cet été un peu plus d'un million de cartes postales aux Parisiens. On a reçu 10 000 idées. C'était la proposition en disant « donnez-moi une idée pour Paris ». Alors, il y a des choses iconoclastes, on s'est un peu moqué, mais il y a aussi des choses intéressantes qui, parfois, peu traitées dans les enquêtes qu'on voit traditionnellement. On parle beaucoup de pollution atmosphérique, je vous donne juste un exemple.
On va y venir, bien sûr.
Je donne juste un exemple, on parle beaucoup de pollution atmosphérique. On a reçu beaucoup de cartes postales qui disaient « il y a la pollution sonore, il y a la pollution des deux roues, et quand un deux roues, la nuit, un peu débridé, traverse la rue, ça réveille tout le monde ». Donc il y a des choses assez intéressantes qui ont été identifiées.
Vous parlez de questions iconoclastes. Est-ce que quand même, vous êtes inquiet, vous allez prendre le temps d'écouter la conférence de presse de Cédric Villani, mercredi à 19h30. Si vous ne savez pas l'horaire, je vous le donne.
Moi, j'ai pris le temps, cet été, nos équipes, les miennes et celles de Cédric, on a pris le temps de se parler, de discuter. Ce qui a donné lieu, je lui ai adressé une lettre, restée sans réponse, il y a un peu plus d'une semaine, où je lui fais des propositions, et notamment une proposition qui est de copiloter cette campagne à mes côtés. Copilotage, ça veut dire prendre des décisions sur deux grands champs d'une campagne municipale. Une campagne municipale, ce sont des idées et puis des personnes pour les porter. Je lui propose que sur les grands choix programmatiques et sur les personnalités, il soit à mes côtés pour copiloter cette campagne.
Donc il ne vous a pas répondu ?
Il ne m'a pas répondu. Mais bon. Je suis certain que c'est un homme courtois et qu'il m'apportera une réponse.
Est-ce qu'en se présentant comme ça, en homme libre au-dessus des appareils partisans, des partis, est-ce qu'il n'incarne pas finalement ce qui fait l'ADN du macronisme ?
Mais vous savez, la comparaison est souvent faite. Emmanuel Macron n'a pas participé à la primaire socialiste. Là, Cédric Villani, il a participé à notre mode de désignation, qu'il avait d'ailleurs accepté, dont il avait voté les règles, et dans lesquelles il s'est engagé à être loyal. C'est pour ça qu'il y a les rumeurs, il y a les on-dit, il y a le teasing, il y a la sauce
Alors
médiatique.
Justement.
Mais j'écouterai mercredi la décision qui sera la sienne. Mais moi, vous savez, j'ai aussi mon petit côté scientifique. Je me fonde non pas sur les rumeurs et les on-dit, mais sur les faits.
Mais justement, effectivement, Alain Richard, le co-président de la Commission nationale d'investiture de La République En Marche, avait été très clair en juillet, avait mis en garde Cédric Villani. On l'écoute.
Est-ce que si Cédric Villani ne soutient pas Benjamin Griveaux, il pourrait être exclu ?
C'est probable. C'est la règle du mouvement. Et tout le monde la connaît.
Donc Cédric Villani, il faut qu'il soit conséquent, soit effectivement il respecte son engagement de soutenir Benjamin Griveaux, le candidat officiel de La République En Marche, soit il se met en marge.
C'est pas le candidat officiel, c'est le candidat de La République En Marche. Parce que La République En Marche, on a des procédures collectives que nous avons choisies ensemble. On peut, et je l'ai dit, être déçu à l'issue d'un processus dans lequel on n'a pas été désigné. Je le comprends parfaitement. Et je vais vous dire, si le soir du 10 juillet, qui est le soir où la commission a donné la réponse, on s'était tous retrouvés sur une photo, avec des sourires un peu forcés. Personne n'y aurait cru. Moi, je crois à la sincérité de la démarche. Lorsqu'il y a eu des primaires dans d'autres partis avant, le sourire forcé le soir de la primaire, en général, ça se termine pas très bien. Je pense à la primaire socialiste de 2017, où vous voyez bien que Emmanuel Valls et François d'Origine n'ont pas soutenu.
Oui, mais Benjamin Griveaux, est-ce
moi,
que s'il se présente,
quelque chose de sincère.
S'il se présente, soyez sincère, est-ce que Cédric Villani doit être immédiatement exclu ?
D'abord, ça n'est pas mon affaire, c'est l'affaire du mouvement.
Si, c'est un peu votre affaire sur le terrain quand même.
Sa place est au sein de sa famille politique, auprès du candidat qui a été investi par sa famille politique et dont aujourd'hui il est, je le rappelle, un député. Et donc moi, j'écouterai attentivement ce qu'il dira le 4 septembre, mais je ne me prononce jamais sur des si, sur des rumeurs, sur des on-dit.
Donc ça veut dire que vous allez laisser, et c'est comme ça que certains estiment dans la majorité que ça doit se jouer, vous allez laisser les sondages vous départager dans les prochaines semaines.
Alors je vais vous dire une chose, s'il y en a un qui, parmi les compétiteurs, ne croit pas aux sondages, c'est moi, parce que je suis l'un des fondateurs d'En Marche. L'un des fondateurs. Je note d'ailleurs que Mounir Majoubi, qui est parmi les fondateurs d'En Marche, m'a rejoint cette semaine. S'il y a bien une chose dans laquelle nous ne prêtons, à laquelle nous ne prêtons aucune attention, ce sont les sondages. Sinon, nous n'aurions jamais monté La République En Marche. Emmanuel Macron n'aurait jamais eu le courage de s'engager. Quand on est libre, on est libre des sondages.
Benjamin Griveaux, on va parler évidemment de votre campagne et de Paris dans quelques secondes. Un dernier mot sur Cédric Villani. Si vous êtes tous les deux candidats, est-ce que ça fait le jeu de la municipalité actuelle et de la candidature Hidalgo ?
Je crois que la division n'est jamais bonne, mais vous savez, j'ai une conviction, pour ne pas dire une certitude. C'est qu'à la fin, quel que soit ce qui se passe dans les jours qui viennent, nous serons rassemblés parce que nous avons un seul objectif, proposer une offre politique nouvelle aux Parisiens et faire en sorte que Anne Hidalgo ne fasse pas un autre mandat. Mais c'est ça l'enjeu de cette élection, c'est d'arriver à proposer une offre politique nouvelle. Moi,
vous irez jusqu'au bout.
Je suis le candidat de La République En
Donc
Marche
à Paris. Donc vous ne jetterez pas l'éponge.
Mais, enfin, je suis le candidat de La République En Marche à Paris, Jean-Jérôme Bertolus. J'ai réuni des soutiens issus de tous les bords politiques depuis des mois, patiemment, méticuleusement, pas dans les médias, pas dans des tribunes, sur le terrain, avec ce que les Parisiens nous disent, avec leur trip. Moi, je pense aux Parisiens qui rentrent de vacances, qui découvrent que les travaux n'ont pas avancé, contrairement à ce qui avait été promis. C'est ça, les sujets de cette campagne. C'est pas de savoir qui, de querelle, d'ego, va mettre son ego dans sa poche par rapport à l'autre. La seule obsession qui est la mienne, c'est de régler les problèmes des Parisiens qui connaissent les galères de la rentrée. La rentrée, c'est demain. Et très franchement, c'est ça qui m'intéresse. Et le reste me désintéresse.
Vous irez jusqu'au bout et vous irez jusqu'à 9h avec nous ce matin, en tout cas.
Mais j'irai même jusque, même après 9h, si vous m'autorisez, mais je crains que.
Restez le temps que vous voulez, en tout cas jusqu'à 9h, c'est sûr. Et d'abord, puisqu'on parle d'horaire, il est 8h40, on retrouve Léo Téchère pour l'info.
Villeurbanne encore sous le choc ce matin. Une attaque au couteau a fait un mort et 8 blessés hier après-midi. Sur France Info, le président de la métropole de Lyon, David Kimmelfeld, se dit particulièrement inquiet pour les 3 blessés graves. L'agresseur toujours en garde à vue ce matin, il n'explique pas son geste. La piste terroriste n'est pas privilégiée. Plus de 60 millions de morts, 6 ans de guerre, conflit le plus sanglant de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale commençait il y a 80 ans, jour pour jour. Ce matin en Pologne, où les premières bombes nazies s'étaient écrasées, le président allemand demande pardon aux Polonais. La viande et le soja OGM participent à la déforestation de l'Amazonie. La forêt tropicale continue de brûler. Et ce matin, dans le journal du dimanche, des dizaines d'ONG et de députés français appellent au boycott de ces produits. Ils demandent à l'Europe d'interdire les importations. Neymar, c'est Keda, l'attaquant brésilien, reste au PSG. Selon les informations de France Info, c'est lui-même qui l'a dit à ses coéquipiers. Le PSG, leader provisoire de la Ligue 1, avant le match du Stade Rennais cet après-midi, les Bretons qui reçoivent Nice à 15h, ce soir à 21h, Marseille reçoit Saint-Etienne. Hier, Lyon a fait match nul contre Bordeaux, 1-1, et Angers monte sur le podium grâce à sa victoire 2-0 contre Dijon.
France Info. Et tout est plus clair.
Le 8h30 France Info, désormais, chaque dimanche, on parle des municipales de mars avec Jean-Jérôme Bertolus, notre candidat ce matin, le candidat de La République En Marche, Benjamin Griveaux. Comment se passe votre campagne? Vous parlez de cette campagne sur le terrain. Elle a été considérée dans les premiers temps comme un peu difficile. Est-ce que la tendance est surmontée?
D'abord, je vais vous dire, une campagne à Paris n'est jamais un long fleuve tranquille. Et donc on a droit à son lot de boules puantes et d'attaques. Si on n'y est pas préparé, il ne faut pas se lancer dans ce genre d'exercice. Hier matin, tout le week-end, et encore donc ce matin sur les marchés, lancé la campagne, notamment autour du sujet de l'éducation, puisque c'est l'une des premières thématiques. Alors c'est évidemment la rentrée scolaire qui nous invite à parler un peu d'éducation et d'école, et surtout parce que le maire de Paris, il a son mot à dire, parce qu'il a en responsabilité des crèches jusqu'au collège. C'est parce qu'on est ville-département, donc c'est un cas un peu particulier en France, et où, au fond, la ville intervient beaucoup dans les écoles. Et notamment sur les fameux temps périscolaires. Moi, je suis papa d'enfants qui vont à l'école et qui, le mardi de 15h à 16h30 et le vendredi de 15h à 16h30, ont les temps périscolaires. Et je trouve, moi, que ces temps périscolaires, on pourrait les employer plus utilement, par exemple. C'est l'une des propositions que j'ai formulées, notamment pour préparer les petits Parisiens au bilinguisme français-anglais. Pas pour les occuper, mais simplement parce que l'anglais, c'est un passeport pour la liberté. Et surtout, c'est la langue étrangère, maîtriser une langue étrangère par rapport à sa langue maternelle, c'est un vrai facteur discriminant au moment des examens, au moment des concours, au moment de trouver un boulot.
Et
ça, c'est une proposition que
vous avez
j'ai mis dans le débat,
dernière,
que j'ai fait dès la semaine dernière, qu'on va expliquer aux Parisiens sur les marchés,
pour qu'on comprenne
comme
bien,
quand on fait campagne.
Pour qu'on comprenne bien aujourd'hui, Benjamin Griveaux, quel est votre principal adversaire? C'est Anne Hidalgo ou Yannick Jadot, le patron, le leader d'Europe Écologie Les Verts? Écoutez ce qu'il disait cette semaine sur l'enjeu des municipales.
Vaut mieux un maire écolo à Paris, à Besançon, à Bordeaux, à Lyon, à Nantes, à Rennes, à Montpellier, à Toulouse et dans toutes les villes moyennes où nous avons aujourd'hui de très bons sondages.
L'enjeu principal de ces municipales à Paris, mais on l'a vu en fait, sur l'ensemble de la campagne municipale dans toutes les métropoles, le principal enjeu, c'est l'écologie?
Je vais vous dire, mon principal adversaire, c'est le renoncement et le dogmatisme. Moi, je souhaite
qui
une écologie...
Qui incarne ce renoncement et ce dogmatisme? C'est Anne Hidalgo? C'est l'équipe sortante.
Écoutez, des décisions prises seules, sans jamais associer les villes autour. Jamais.
Les villes autour, c'est le Grand Paris, on va dire.
La petite couronne, oui. La métropole. On prend les décisions tout seul, alors que vous avez 2/3 des personnes qui travaillent à Paris qui n'y vivent pas, et 1/3 des Parisiens qui travaillent en dehors de Paris. Nous avons nos destins liés. Et moi, je refuse absolument que par dogmatisme, ou parce que on a un esprit de clan, lorsqu'on n'est pas de la même couleur politique, on ne travaille pas avec les autres.
Vous c'est entendez bien avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France?
Mais je n'ai pas le choix si demain je suis le maire de Paris. J'en ai ras-le-bol qu'on fasse de la politique politicienne sur le dos des Parisiens. Que le maire de Paris n'ait pas de bonnes relations avec l'ensemble des maires d'arrondissement. Ils ne sont pas tous de son bord politique, c'est pas grave. Un maire d'arrondissement qui n'est pas de votre bord politique, il a été élu quand même par les Parisiens. Bah. Et donc moi, mon principal adversaire, c'est le dogmatisme et l'enfermement sur soi-même. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres, il faut recommencer à se parler, il faut mettre les gens autour de la table. C'est comme ça qu'on apportera des solutions concrètes aux Parisiens. Je vais vous le dire. Une rue propre, c'est pas de gauche ou de droite,
mais
c'est une rue propre.
Je vous repose la question de Jean-Jérôme, Benjamin Griveaux. Est-ce que, et on l'a d'ailleurs perçu dans la campagne et les résultats des européennes récemment, est-ce que l'écologie, c'est le thème numéro un de cette campagne à Paris?
Pour vous. C'est l'un des thèmes, évidemment. Ouais. Mais je vais vous dire qui est très transversal. C'est-à-dire que quand vous allez parler de logement, vous allez parler d'écologie. Quand vous allez parler de déplacement, vous allez parler d'écologie. Quand je parle d'école, on a moqué cette proposition que je fais qui est toute simple. Où est-ce que nos enfants passent le plus clair de leur temps? Dans les salles de classe. Quels sont les endroits parmi les plus pollués de Paris? Les salles de classe. Il y en a 8000 à Paris. J'ai proposé qu'on change les systèmes de ventilation. Vous savez combien ça coûte? 10 millions d'euros par an pendant 6 ans. Vous savez combien la ville de Paris investit? 1,5 milliard par an. Les investissements dans les écoles, ils ont baissé de 6% ces 5 dernières années. Si on change juste les systèmes de ventilation, alors ils vous disent, mais ça c'est de l'écologie à la petite semaine.
À propos,
moi je vais vous dire, je ne fais pas de l'écologie.
Ça peut être très important.
Mais c'est ce que me disent.
On le voit.
C'est ce que disent certains écologistes.
Benjamin Griveaux.
Ce sont des écologistes de salon. Moi je veux l'écologie du réel. Le Premier ministre a dit cette semaine, il faut une écologie souriante. Je veux qu'on associe des gens, mais qu'on change vraiment la qualité de l'air que nos enfants respirent dans les salles de classe.
L'écologie,
et donc j'assume.
Yannick Jadot a entendu effectivement l'écologiste de salon. Un petit mot quand même, mais un mot important sur les écoles. On voit les écoles diocésaines, et les certaines écoles privées autour de Notre-Dame, eh bien, vont différer leur rentrée. En ce qui concerne la contamination au plomb, est-ce qu'Anne Hidalgo et la municipalité à respecter le principe de précaution, à bien gérer effectivement ce qui était un problème de...
Alors je veux dire, ne comptez pas sur moi pour lancer une polémique quand il s'agit de santé publique. C'est la santé de nos enfants. Moi, ce dont...
Non, je compte sur vous pour avoir une réponse surtout.
Ben, ce que je vais vous dire, c'est très simple. L'Agence régionale de santé, qui est donc l'autorité de santé, estime que dans ces écoles, il faut reporter la rentrée. Quel est le rôle de la maire de Paris dans ce moment-là? D'accompagner les familles le mieux possible pour que la rentrée qui doit avoir lieu demain, eh bien on puisse la faire dans de bonnes conditions. S'il y a une chose que je regrette, c'est qu'on ait prévenu les parents à quelques jours seulement de la rentrée. Parce qu'il faut s'organiser derrière.
Bien sûr.
Les parents, c'est de la galère. C'est
bien
les galères dont je vous parlais. Le rôle du maire de Paris, c'est de régler ces galères-là. Et puis, le rôle des autorités sanitaires, c'est de veiller à d'abord faire un travail de, évidemment, décontamination du plomb et de faire un bon travail de prévention et d'alerte. Et donc, le principe de précaution, il est partagé entre la ville et l'État. Et à nouveau, le maire de Paris, s'il est en guerre permanente contre l'État, qu'en permanence, il n'est responsable de rien et accuse les autres de tous les maux, ça ne peut pas fonctionner.
Vous avez cité le chiffre de 8000 parce que ça concernait les salles de classe. Il y a 8000 chantiers également en ce moment à Paris. Est-ce que vous comptez surfer sur le ras-le-bol des riverains, des piétons, des automobilistes, sachant, il faut quand même le préciser, que sur ces 8000 chantiers, il y en a environ 600 seulement qui sont directement liés à la ville?
Alors, d'abord, le candidat,
géré par la ville.
Le candidat à n'importe quelle mairie qui vous dit qu'il ne fera pas de travaux, celui-là, il ne faut pas le croire, ou alors il ne faut surtout pas voter pour lui parce que c'est un inconscient. Donc évidemment qu'une ville, pour être entretenue, elle a besoin de travaux. Et personne ne peut contester qu'on entretienne les réseaux. Il est vrai que sur les 8000 chantiers, il y en a 600 de la ville de Paris. Après, les 7400 autres, est-ce que vous croyez sincèrement qu'une entreprise arrive, met des palissades et commence à creuser sans avoir l'autorisation du maire de Paris? Non. Alors si c'est le cas, c'est très inquiétant. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Donc ils ont tous été autorisés. Ce que je conteste, et combien de gens m'ont dit, de commerçants notamment, écoutez, la rue, ils l'ont ouvert 3 fois cette année. Une fois pour le chauffage urbain, une fois pour le gaz, une fois pour l'eau, une fois pour la fibre. Est-ce qu'on peut pas, de manière très concrète, très opérationnelle, les mains dans le cambouis, dire à nos opérateurs, parlez-vous, faisons en sorte qu'on fasse les travaux qui sont nécessaires pour entretenir les réseaux, mais on ouvre la chaussée une fois dans l'année, pas 3 fois la même année, parce que 3 fois la même année, quand vous venez d'ouvrir un commerce, quand vous avez un café-restaurant, eh ben vous perdez vos clients, et puis vous licenciez, puis vous fermez le rideau. C'est ça qui est pas
donc
possible.
La mairie donc il faut de Paris mettre... qui demande aux Parisiens, et aux Franciliens d'ailleurs, de faire preuve de patience...
C'est bien de faire preuve de patience, mais vous savez, on peut faire preuve de patience quand on a un calendrier. Il n'y a jamais eu de calendrier sur les travaux. Vous pouvez faire des travaux. Il faut juste dire aux Parisiens quand est-ce que
si
ça
si,
commence.
La ville de Paris quand a dit que ça sera terminé à la rentrée.
Oui, à chaque fois, ils nous disent que c'est terminé le mois d'après. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça se termine? Pourquoi on fait ces travaux? À quel moment? Enfin, écoutez, combien de chantiers sont laissés vides et on y passe, il n'y a jamais personne dessus? C'est de l'observation. À nouveau, c'est pas politicien de dire ça, mais c'est juste de l'observation. Donc, il y a un problème de gestion. Il faut mieux gérer cette ville. Il faut la gérer en tenant compte des attentes et des galères des Parisiens. C'est aussi simple que cela. C'est aussi cela être maire de Paris. Être maire de Paris, c'est dire où je vous emmène dans 20 ans, dans 30 ans. C'est quoi les grands défis des capitales mondiales? Et l'écologie en est un, avec les différents sujets qu'on peut relier à l'écologie. Mais il y a aussi le quotidien. Si je ne suis pas capable de régler les problèmes des Parisiens en 2020, je vais vous dire, ils ne me croiront pas quand je leur parlerai du Paris de 2050.
Vous restez avec nous évidemment, Benjamin Griveaux, à 9h10, on retrouve sur France Info, Léo Teicher, l'actualité est résumée.
Un grand prix de Formule 1 endeuillé cet après-midi en Belgique. Un pilote de Formule 2 est mort hier sur le même circuit. Le français Antoine Hubert, 22 ans, décédé après un carambolage à grande vitesse. Heureusement que des témoins sont intervenus hier à Villeurbanne. Un responsable du syndicat de police Alliance réagit sur France Info à l'attaque au couteau qui a fait 1 mort et 8 blessés hier près de Lyon. Le bilan aurait pu être plus lourd. Selon lui, l'assaillant maîtrisé par des passants, il est depuis en garde à vue et n'explique pas son geste. Plus de 280 tueries de masse en à peine 241 jours cette année aux États-Unis. Nouvelle fusillade hier soir à Odessa au Texas. 5 morts et 21 blessés. Le tireur lui-même abattu par la police. Les États-Unis qui surveillent toujours Dorian, l'ouragan de catégorie 4, devrait épargner la Floride, mais finalement se diriger vers des États plus au nord. Il menace pour l'instant les Bahamas avec des vents à plus de 240 km/h. Et puis, l'équipe de France entre Nice en mondial de basket, match contre l'Allemagne à partir de 14h30. Hier, la Chine a battu la Côte d'Ivoire 70 à 55. L'Italie, l'Espagne et la Serbie ont tous les trois emporté leur premier match par près de 50 points d'écart.
France Info. Et tout est plus clair.
Le candidat La République En Marche pour les municipales à Paris, Benjamin Griveaux, est notre invité ce matin sur France Info, Jean-Jérôme Bertolus.
Benjamin Griveaux, il y a un chiffre qui a frappé tous les Parisiens, tous les Franciliens, mais aussi tous les Français qui habitent dans une métropole en France, une grande ville. C'est le chiffre de 10 000 euros du mètre carré en moyenne pour un appartement qui a été franchi au mois d'août. On voit des familles quitter Paris, on voit une classe moyenne sous pression. Qu'est-ce qu'on peut faire? On écoute tout de suite la réponse de Yann Brossat. C'est à la fois le candidat communiste pour les municipales, mais il est membre de l'équipe municipale d'Anne Hidalgo.
Lorsque vous achetez un appartement aujourd'hui, vous achetez et le terrain et l'appartement qui est au-dessus. Nous allons pouvoir mettre en place un nouveau dispositif qui fera que vous n'achèterez que le bâti et non plus le foncier. Donc je le dis à des Parisiens de la classe moyenne qui aujourd'hui n'arrivent pas à acheter, avec ce nouveau dispositif, nous allons pouvoir mettre en place des logements qui seront à moitié prix par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui.
Vous êtes convaincu?
J'ai du mal à être convaincu par le pompier pyromane. Parce que M. Brossat, ça fait 5 ans et demi qu'il est adjoint au logement d'Anne Hidalgo. 5 ans et demi. 5 ans et demi, il a dépensé 1 milliard d'euros pour acheter des mètres carrés très chers. Il a participé à l'inflation des prix de l'immobilier à Paris. Pourquoi? Il a concentré la totalité des investissements, c'est important d'en faire, sur le logement social. Et je ne conteste pas que le logement social a sa place à Paris. Mais il manque à Paris un logement. Le logement intermédiaire. Parce que vous avez le marché social et le marché libre. Le marché intermédiaire, il est quasiment inexistant. C'est les fameuses classes moyennes. Vous avez les classes moyennes.
Donc, à travers le logement intermédiaire, c'est possible, en un mandat de maire, de faire baisser la pression sur les prix?
Non, pas en un mandat. Pas en un mandat. C'est le travail d'une génération, ça. Parce qu'on a laissé tellement flamber les prix. Moi, je suis arrivé à Paris en 1995. Les prix du mètre carré, ils ont fait x4 ou x5. Les salaires, ils n'ont pas fait x4 ou x5. Et la difficulté que vous avez aujourd'hui, c'est que vous avez un salaire qui vous permet d'être éligible au logement social. Vous avez une augmentation parce que vous changez de boulot, et puis tant mieux pour vous, parce qu'après tout, l'objectif, c'est aussi de pouvoir grandir professionnellement. Et ben là, vous tombez dans le marché libre. Et ben quand vous êtes dans le marché libre, si votre salaire, vous avez gagné 20%, votre loyer fait 100% de plus. Donc c'est le marché intermédiaire qu'il faut structurer. Ça concerne les classes moyennes. Il y a eu une enquête de Cadre Emploi. 80% des cadres parisiens, cette semaine, disent vouloir quitter Paris. C'est la grande difficulté, c'est l'un des grands enjeux des mandats qui viennent. On a perdu 60 000 habitants en 5 ans, une ville qui perd ses classes moyennes, où un professeur,
et ça
un policier,
encore une fois, sur toute
une personne
de France,
qui travaille aux hôpitaux de Paris ne peut pas se loger, ça n'est pas sain.
Et ça se répercute donc sur toute l'Île-de-France.
Voilà, évidemment. Ça,
alors,
parce
un
que
petit mot, vous parliez,
les prix d'immobilier montent dans les communes limitrophes par définition.
Vous parliez du milliard investi par Yann Brossat sur le logement social, qui représente à peu près un quart quand même des logements à Paris, c'est important.
Ouais.
Est-ce que l'endettement parisien, c'est un problème?
L'endettement est un problème partout, pas qu'à Paris. Parce que quand vous vous endettez, vous reportez sur les générations suivantes les décisions que vous prenez, vous. Et l'endettement, il a beaucoup augmenté, en particulier ces dernières années. Et je vais vous faire une confidence. Regardez bien le débat budgétaire qui tiendra cette fin d'année à l'Hôtel des Villes de Paris. Parce qu'ils ont caché des choses. Parce que subitement, vous verrez, les annuités de la dette, elles vont augmenter après l'élection municipale. Et donc, le prochain maire de Paris, il aura à gérer une dette dont il n'est pas le responsable. Et il aura à gérer des choix très irresponsables qui reportent sur les générations de petits Parisiens à venir le poids des décisions qui ont été prises aujourd'hui. Parce que, et c'est là où il y a une part de mauvaise foi dans la municipalité, quand vous avez les prix de l'immobilier qui augmentent, ce que ne disent pas les élus, c'est que les droits de mutation qui sont associés à l'augmentation des prix de l'immobilier augmentent aussi, ce sont des recettes pour la ville de Paris. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, il faut remettre tout ça à plat, et moi je vais vous dire, pourquoi est-ce qu'on s'endette beaucoup parce qu'on emprunte beaucoup, pourquoi est-ce qu'on ne co-investit pas plus avec le privé? Beaucoup de communes l'ont fait en France, beaucoup de métropoles le font. Au-delà de la gauche et de la droite, l'une des villes de France qui a fait le plus de partenariats publics-privés, c'est Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis.
Il nous reste...
C'est bon pour les finances publiques,
Benjamin
c'est efficace Griveaux. Et ça évite d'augmenter
Benjamin
la dette.
Benjamin Griveaux, il nous reste un peu moins de 2 minutes en ce moment dans les sujets d'actualité qui ne concernent pas que Paris d'ailleurs, qui concernent d'autres grandes villes comme Venise. On tente de lutter contre le tourisme de masse qui peut parfois dégrader la ville. Gaspard Ganzer, qui est aussi candidat à la mairie de Paris, a dit qu'il fallait moins de touristes à Paris. Est-ce que vous êtes d'accord?
C'est le fameux phénomène du surtourisme. Moi, j'ai été l'un des premiers, puisqu'il y a plusieurs mois déjà, c'est une des premières propositions que j'ai formulées, d'interdire les cars de tourisme dans Paris, avec notamment des cars de tourisme au diesel. C'était une proposition, alors on a souri, on s'est beaucoup moqué, parce qu'on m'a dit, mais c'est une proposition d'Anne Hidalgo en 2014. Alors vous voyez, moi je rends à César ce qui appartient à César, c'est une très bonne proposition, c'est dommage qu'elle ne l'ait pas fait. Comme beaucoup des propositions qu'elle a d'ailleurs formulées en 2014. Est-ce que on doit lutter contre le tourisme? Non. Est-ce qu'on doit organiser la ville, penser la ville, aménager la ville pour les touristes? Non. On doit aménager et penser la ville pour les gens qui y vivent. Et je vais vous dire, pour les gens qui y travaillent. Parce que à Paris, moi je souhaite qu'on puisse encore y travailler. Quand vous êtes artisan, quand vous êtes commerçant, vous avez de plus en plus de difficultés parce que vous passez 2 heures par jour dans les embouteillages. À la fin de la semaine, c'est une journée de boulot qui est perdue et ça devient compliqué de travailler à Paris. Qu'on aménage la ville pour les gens qui y vivent, qui y travaillent, et puis bien sûr pour les touristes, parce que c'est une manne financière pour la ville, ça fait vivre beaucoup de nos hôteliers, de nos restaurateurs, de nos commerces, et c'est une bonne chose, mais que les choses soient claires, la priorité, c'est d'abord pour ceux qui y vivent et qui y travaillent.
Un mot sur Édouard Philippe, c'est un bon Premier ministre ou ça serait finalement un bon candidat au municipal au Havre, voire à Paris?
Je vous voyais venir. Il a été un grand maire du Havre et je vais vous dire, il a eu la confiance très large de la majorité parlementaire lors de son discours de politique générale, juste avant l'été. Et il rentre dans cette rentrée, elle est importante parce que c'est la transformation qui se poursuit du pays. Et notamment la transformation de notre modèle social auquel on est très attaché avec ce grand rendez-vous des retraites qui est un temps important, qui est quelque chose qu'on a repoussé depuis des années et des années.
Ça reste un peu flou encore.
Ouais, mais vous savez, c'est la grande transformation qui se poursuit et Édouard Philippe est un bon capitaine de navire pour la conduire.
Merci d'être passé ce matin à France Info.
Merci de votre
invitation. Benjamin Griveaux pour le 8:30 France Info. Merci Jean-Jérôme. On se retrouve dimanche prochain. Demain, le duo Fauvel-Dely revient évidemment. Merci à tous.